Aujourd'hui, c'est la Pâque. En fait, la Pâque, j'aimerais parler un peu de la doctrine de la résurrection. Doctrine. Moi, j'aime bien. D'abord, c'est pas compliqué. On va lire un passage et plusieurs versets dans 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est un jour où vous posez une question sur la résurrection, c'est le passage clé. Voilà, 1 Corinthiens 15. On ne va pas lire en entier parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais 1 Corinthiens 15, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23, puis on lira un peu plus loin. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 12 à 23. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. On va aller un petit peu plus loin dans le même chapitre, au verset 51. On va lire les versets 51 et 53. Je laisserai lire à la maison le reste. Hein. Verset 51. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et la mort et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » La résurrection, vous y pensez tous les jours. Non ? Ben, il faudrait, c'est quand même notre avenir, je crois. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme espérance face à la mort ? Moi, en tant que chrétien, normalement, j'ai une espérance, et c'est justement la résurrection et la vie éternelle avec le Seigneur. Mais maintenant, si je vous demandais, ok, vous croyez à la résurrection, mais prouvez-le, qu'est-ce que vous me diriez ? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, mais prouve-moi que c'est vrai. C'est ça la doctrine, hein, justement, pouvoir défendre sa foi.
Des témoins l'ont vu.
Tu vas trop vite, toi. Oui, des témoins l'ont vu. On va voir combien.
500.
Plus. Il faudrait pouvoir répondre à cette question à quelqu'un. Hein. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai, et on va le voir ce matin, comment moi-même, en tant que chrétien, je peux être certain que je vais un jour ressusciter, puis savoir qui va ressusciter aussi, quand est-ce qu'on va ressusciter, et surtout, comment on va ressusciter. Aujourd'hui, c'est la Pâque, et je pensais que ce serait une bonne occasion de nous réjouir qu'un jour, nous allons plus avoir ce corps où on souffre, où on a de la douleur, qui a du mal des fois, mais un jour, on va avoir un corps absolument parfait, ressuscité, et il sera dans la gloire avec Jésus-Christ, et ça, ça me réjouit. Alors vous, je ne sais pas, mais vous en faites ce que vous voulez, mais moi, ça me réjouit. La première chose qu'on peut voir dans cette doctrine de la résurrection, c'est que c'est la base de notre foi. Quand on s'intéresse dans la Bible, là, je vais très rapidement, mais il y aurait beaucoup de choses à dire, concernant la résurrection de Jésus, c'est ça la base, en fait, de la foi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il est annoncé plusieurs fois. Là, j'ai quelques versets. Par exemple, dans le psaume 16, versets 9 à 10, il est dit « Ainsi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu, en parlant de Jésus, hein, tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » C'est-à-dire qu'il ne restera pas dans la mort, mais il va devoir ressusciter. Donc, l'Ancien Testament nous parle dans beaucoup d'autres passages qu'il croyait à une résurrection de l'homme, en tout cas. Hein. Là, on annonce la résurrection de Jésus, mais on croit aussi à la résurrection de l'homme. Dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus lui-même va dire dans Marc, « Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. » Les disciples retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Jésus leur annonce sa résurrection. Les disciples ne devaient pas en parler, mais en même temps, ça veut dire quoi pour eux? Mais en tout cas, la Bible, du début à la fin, parle de la résurrection de l'homme, en tout cas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, cette résurrection de Jésus a été confirmée par beaucoup de témoins. D'abord, on a constaté la mort de Jésus. Ça a été constaté par le soldat, il avait lancé une lance pour voir s'il était vraiment mort. Mais les autorités ont tout fait pour montrer qu'il n'y aurait pas une supercherie là-dedans. Et après 3 jours, on le sait, Jésus est ressuscité, il est sorti de la tombe, et Jésus est réellement ressuscité, nous lit la Bible. Alors les témoins, il y en a plein en fait. Il y a des femmes qui ont vu en premier Jésus ressuscité, Marie-Madeleine, il y a les disciples en général. Pierre a vu Jésus ressuscité, Jean, Jacques, Thomas, il a mis un peu de temps pour croire, mais il a cru finalement, il a demandé un peu des preuves. Les gardes ont vu Jésus ressuscité, les anciens, les disciples d'Emmaüs, etc., etc. On a parlé de 500 tout à l'heure, mais il faut ajouter tous ces gens-là, il faut ajouter aussi tous les disciples, etc. Donc il y a beaucoup plus que 500 personnes qui ont vu Jésus ressuscité, et ça c'est seulement ce que dit la Bible. Il y a peut-être plus encore. Quand il y a un accident de la route, il faut combien de témoins? 2, 3, je crois. Hein. Quand il y en a 500, vous croyez que le fait est avéré? Vous allez vraiment griller le stop? Il y a 500 témoins qui le disent. Et vous dites non, c'est pas vrai. C'est ridicule, non? Et pourtant, il y a des gens, pardon?
Ils étaient prêts à donner leur vie pour l'affirmer.
Oui, je vais dire, va pas plus vite que moi, toi. Mais c'est un fait avéré, et on est capable de l'accepter avec 500 témoins pour un accident, et on va dire à la personne, écoute, c'est bon, il y a 500 témoins, tu peux pas dire que c'est faux. Hein. Mais l'homme est capable aujourd'hui, en tout cas le non-croyant, de dire, bah non, la résurrection de Christ, c'est n'importe quoi. Saul de Tarse aussi a vu Jésus qui était ressuscité, lui était parti pour aller voir pour aller tuer des chrétiens, et Jésus va lui apparaître, et il a apparu ressuscité. Donc la résurrection, elle est prouvée. Après, c'est un acte de foi, moi je ne l'ai pas vu, mais je crois ces gens qui ont vu Jésus ressuscité. La résurrection, c'est la base même de l'évangile, et c'est ce que disait tout à l'heure Paul dans Corinthiens. S'il n'y a pas de résurrection, vous pouvez tout sortir, ça ne sert à rien. Qu'on fait aujourd'hui, de croire en Jésus-Christ. C'est la base de l'évangile, c'est la base de notre foi, ce fait glorieux. Sans la résurrection, ma foi serait complètement vaine. Je pourrais croire en Christ, mais mourir, et après il n'y aura rien, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Sans la résurrection, il n'y aurait aucun espoir pour le chrétien aussi dans l'au-delà. On marcherait tous les jours en tant que chrétien, avec la joie peut-être des chrétiens, mais après la mort, il n'y aurait rien. Mais nous, on sait qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a la résurrection. Un témoignage de la résurrection qui a été aussi colporté par les témoins, c'est ce que disait tout à l'heure François. Hein. D'abord, ce n'était pas une résurrection facile à croire. Alors nous, avec le recul, on croit, parce qu'on a la Bible, mais imaginez être le disciple. Hein. Et on vous dit, Jésus est ressuscité. Il est fatigué, hein, le monsieur qui me dit ça. Il faut se mettre à leur place. Hein, et donc ils ont quand même eu du mal à accepter, à être persuadés au départ que Jésus était réellement ressuscité. C'est la première fois dans le monde que ça s'est passé. La première fois. Et eux étaient face à cela. Et le Seigneur va leur reprocher leur incrédulité, surtout parce que, en tout cas eux, parce que Jésus leur avait dit. C'est ça, surtout. Et eux, bon, ils n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire. On aurait été pareil, à mon avis, peut-être pire même. Mais Jésus va fournir plusieurs fois des preuves, par le fait d'être venu, de montrer à Thomas, par exemple, les trous dans les mains, etc. Et tout doucement, les disciples vont accepter que Jésus est réellement ressuscité. Même nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas évident d'avoir cette conviction, parce qu'on n'a jamais vu, parce qu'on n'a jamais touché Jésus. Hein, donc on accepte, nous, par la foi, simplement. Et ces disciples, plus tard, vont devenir des témoins de la résurrection. Ils vont aller de lieu en lieu pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Et cette foi dans la résurrection va leur donner même la capacité d'aller jusqu'au martyr, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc c'était intégré maintenant, à partir du moment, surtout que l'Église a été fondée et que le Saint-Esprit est venu, à partir de ce moment-là, les disciples ont vraiment cru que Jésus était pleinement ressuscité. Peut-être pour nous, des leçons qu'on peut tirer, vous avez vu Jésus ressuscité? Non, personne. Mais on le croit, parce que comme on l'a dit, on a 500 témoins et même plus, et je pense que ça suffit largement pour valider le fait que Jésus est réellement ressuscité. On a nos petites questions, on a nos interrogations, mais on vit par la foi, hein, on ne vit pas par la vue, mais on le croit en tout cas, comme que Jésus est mort sur la croix, qu'il est mort pour nos péchés, etc. Et c'est toute notre espérance qui s'appuie là-dessus. Hein. Je ne sais pas si vous pensez des fois à la mort, sais que c'est pas très sympa d'y penser, mais il faut bien y penser un moment. Hein, mais quand j'y pense, je ne pense pas seulement à ce moment un peu difficile du passage, mais je pense à ce qui va se passer après, pendant l'éternité. C'est formidable ce qui va se passer. Hein, ressuscité, parfait, sans péché, avec un nouveau corps. Je ne sais pas quel âge on aura, hein, c'est la grande question que je me pose. Est-ce que j'aurai 25 ans? Est-ce que j'aurai 18 ans? 80 ans? On s'en fiche, de toute façon, ce n'est pas ça le plus important, mais c'est ça qui me fait avancer aussi dans la vie chrétienne. C'est le socle de ma foi. Et moi, en tant que chrétien, comme les disciples autrefois, je veux devenir le témoin vivant, et moi je suis vivant pour l'instant, de cette résurrection de Jésus-Christ. Je veux partager justement ma foi avec quiconque veut bien l'entendre. Et puis tant pis si les gens se moquent. Hein. Eux aussi vont ressusciter un jour, mais on va voir à la fin, mais ce n'est pas pour la même chose. Hein. Donc ils vont bien être obligés à un moment ou à un autre de croire en la résurrection, qu'ils le veuillent ou non. Donc la résurrection de Jésus doit être annoncée. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, hein, comme je disais tout à l'heure, Pâques, c'est les œufs en chocolat, c'est les lapins en chocolat. J'aime bien le chocolat, j'ai rien contre. Mais c'est quand même passer de la résurrection au chocolat. À un moment, voilà, hein, je voudrais qu'on puisse annoncer cette résurrection comme elle a été faite. Elle doit être annoncée, et si on a l'occasion dans nos familles, je sais que ce n'est pas toujours évident, ou à nos amis, mais de rappeler ce qu'est Pâques, la mort de Jésus, mais aussi sa résurrection. Et la résurrection, c'est la victoire de Jésus-Christ, justement, sur la mort et sur Satan. Il y a eu des conséquences. Deuxième chose par rapport à cette résurrection, des conséquences d'abord pour Jésus lui-même. Après 40 jours passés avec les disciples, à prouver qu'il était ressuscité, le Seigneur va être glorifié, c'est ce qu'on dit, l'ascension de Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur est dans le ciel, il a été déclaré fils de Dieu avec puissance, nous dit Romains. Il est glorieux, il est retourné là où il était. Et la Bible nous dit aussi que tout pouvoir lui a été donné. Jésus peut tout. Et nous, des fois, on regarde au ciel et on se dit, est-ce que Dieu peut m'aider? Est-ce que Jésus peut m'aider? Jésus peut absolument tout faire. Et il faudra en profiter. Enfin, pas dans le sens profiter, je m'entends, mais que quand je suis, comme on a vu dans le psaume, dans le désespoir, eh ben, je peux demander à Dieu et à Jésus-Christ de m'aider parce qu'il a tout pouvoir aujourd'hui. Sur n'importe qui, sur n'importe quel gouvernement, il peut tout. S'il ne fait rien, c'est qu'il a une raison, il a un plan. Ça, c'est son problème. Mais il peut m'aider. Il est dit aussi qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est couronné de gloire. Il a quitté cette gloire au départ. Hein, il était servi par les anges. Et il a descendu en tant que serviteur sur la terre pour se faire crucifier. Mais il est retourné dans cette gloire. Et aujourd'hui, les anges le servent à nouveau. Mais il faut accepter de vivre ça. Vous êtes prêts, vous ? Quitter votre bien-être, on va dire, pour partir dans un pays difficile, donner votre vie. Qui est partant? Je vous note tout à l'heure. Hein. Et encore, ce qu'on a, nous, c'est quoi? Une maison, un travail, etc. Lui, c'était Dieu. Hein. Il était dans la gloire. Il a accepté tout cela pour nous. Ça fait réfléchir aussi par rapport à l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Il était absolument prêt à tout pour qu'on puisse être sauvés. Et les gens qui ne vont pas être sauvés ne pourront pas lui dire « Ah, mais... » Ben non, il a tout fait pour qu'on en soit sauvé. La question, c'est de savoir si on veut être sauvé. Et en attendant qu'il revienne, parce que Jésus va revenir, on ne sait pas quand, ne me demandez pas la date, mais bientôt, je crois, par rapport aux événements. Et Jésus va revenir, il y aura une grande bataille qui s'appelle Armageddon, et puis Jésus va instaurer son règne pendant 1000 ans. Et je ne peux pas rentrer trop dans le détail ce matin, mais le monde entier verra Jésus-Christ trôner sur son trône à Jérusalem et régner pour l'éternité aussi ensuite avec nous. Donc Jésus revient, établit son royaume pendant 1000 ans et puis finalement la terre sera détruite et nous partagerons l'éternité avec Jésus-Christ pour toujours. Toujours. Un jour vient de passer, un deuxième vient de passer, troisième, quatrième, toujours. Tout le temps avec le Seigneur. Je pense que l'éternité nous suffira pour lui poser toutes les questions un peu théologiques, en tout cas moi, que j'avais. Hein. Et puis d'être juste à côté de lui, vous avez déjà imaginé ça? On ne peut pas, parce qu'on n'a pas la vue, mais par la foi, on peut un peu imaginer ce que c'est, d'être pleinement dans l'amour de Dieu. On le ressent déjà aujourd'hui, mais qu'on sera pleinement, et qu'on en profite pleinement, parce qu'on ne sera plus pécheur, justement. Là, ça va être quelque chose, à mon avis. Déjà, on sait que Dieu nous aime, et ça nous fait du bien, mais alors là, ça va être l'apothéose. Donc il y a eu des conséquences pour Jésus-Christ et il y a des conséquences pour les croyants aussi parce que cette résurrection-là permet que l'on soit aussi sauvé. C'est ce que dit un peu Paul. Hein. Ça sert à quoi d'être sauvé si on ne va pas être ressuscité? Jésus a été livré pour notre justification, nous dit Romains. Être justifié, ça veut dire être déclaré juste. C'est-à-dire que je suis un peu dans un tribunal et Dieu me dit, à cause de ton péché, tu es condamné à mort. Et on le mérite. On le mérite, c'est clair. Mais Jésus rentre dans ce tribunal, dit non, je veux prendre la place d'Emmanuel, ce qu'on appelle la substitution, et il va mourir à ma place et me dit maintenant, tu es déclaré juste, tu es justifié, tu peux sortir de ce tribunal, tu es sauvé. Jésus n'était pas obligé de faire ça, mais il l'a quand même fait. Pour moi, aujourd'hui, je sais que Jésus est vivant, et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous et nous soutient. Jésus prie pour moi tous les jours. Alors, dans une petite église, ça ne fait pas grand monde, mais imaginez dans le monde entier. Jésus prie pour nous tous les jours. L'attention qu'il a à notre égard, hein, l'amour aussi qu'il nous porte à notre égard. Et il nous soutient, nous dit plusieurs passages dans la Bible. Et il me soutient. C'est quand même formidable. Le lundi, maintenant, j'ai le sourire quand je vais au boulot. J'ai quelqu'un avec moi. J'ai quelqu'un qui me soutient, quelqu'un qui a prié pour moi, qui sait que là, il va y avoir un problème. Un patron ou je ne sais pas quoi. Il sait tout ça. Et il prie pour justement que les choses se passent bien. La Bible nous dit que Christ est le dernier Adam, hein, en comparaison avec le premier Adam qui était l'homme et qui a péché. Et ce dernier Adam devient une nouvelle humanité, c'est-à-dire tous ces gens qui sont sauvés aujourd'hui. Et nous en faisons partie de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle famille, parce que je préfère ce terme-là. Et nous allons partager l'éternité ensemble. Heureusement qu'on deviendra parfait, hein, dans le ciel. Parce que imaginez qu'on doive partager l'éternité comme on est aujourd'hui. Bon, peut-être qu'en dans 1 milliard d'années, peut-être on aura vraiment évolué dans notre foi. Mais là, on va partager une vie de famille parfaite. Ça va faire bizarre de ne plus demander pardon. Donc la Bible nous dit que Jésus est les prémices, le premier en fait, qui est ressuscité. Et parce que Jésus est ressuscité, et parce que j'ai foi en cela, et parce que ça a été prouvé, ça me prouve à moi aussi que je vais ressusciter. C'est ça. Moi, je vais ressusciter un jour, comme Jésus. Moi, j'ai hâte de ressusciter, parce que quand Jésus traversait les murs, là, hein, qu'il arrivait d'un coup, j'ai envie de faire des surprises aussi comme ça. C'est un peu puéril, je sais, mais quelque part, on peut bien s'amuser un peu. Mais Christ et ses prémices. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être notre tombe, pour l'instant, va peut-être être à un moment rempli par notre corps qui est mort, mais plus tard, elle va être vide, cette tombe, parce qu'on va ressusciter, justement. Et quelqu'un a écrivé par rapport à un jeune garçon, et je trouve ça mignon. À la période de Pâques, un moniteur avait le groupe des 8 ans, à l'école du dimanche. Parmi les enfants, il y avait Philippe, qui était trisomique. Le moniteur lui donna une boîte à chacun et les emmena à l'extérieur. Il donna une boîte à chacun et les emmena à l'extérieur. Chaque enfant devait mettre dans sa boîte un symbole de la vie nouvelle. Dans une boîte, l'un avait mis une belle fleur, un autre un papillon, un autre de l'herbe. Quelqu'un avait mis un caillou et ça a déclenché le rire des enfants. Et dans la dernière boîte, il n'y avait rien. On se mit à dire, mais quelqu'un n'a rien compris, c'est stupide en fait ce qui a été fait là. Et quelqu'un a tiré le moniteur par la chemise, c'était Philippe, le trisomique, qui dit, c'est ma boîte et j'ai bien fait. Elle est vide parce que la tombe sera vide aussi. À partir de ce moment-là, Philippe fut accepté dans le groupe. Durant l'été, il eut une infection, comme il était fragile de santé, et Philippe mourut. À son enterrement, les enfants ont apporté leur boîte près du cercueil. Leur boîte était vide. C'est beau, je trouve, c'est mignon. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie, mais en tout cas, c'est mignon. Notre tombe sera vide, et c'est ça notre espérance. Et pour l'éternité, elle sera vide. Donc la résurrection de Christ rend possible notre salut et rend possible aussi notre future résurrection. Si j'ai un doute un jour de ressusciter, ben, je pense à Jésus. Jésus est ressuscité. Si lui est ressuscité, il me l'a promis aussi. Voilà. Alors, quelle preuve on a, hein, on pourrait en parler des heures. D'abord, la possibilité, on va dire juste, du simple fait de ressusciter a été prouvée plusieurs fois. Plusieurs personnes y croyaient, en tout cas. Par exemple, Abraham lui-même croyait déjà à la résurrection. Hein. Alors, on le voit dans Hébreux, mais l'événement s'est passé dans Genèse. Hein. Dans Hébreux 11, 17 à 19, il est dit: c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, hein, quand Dieu lui avait demandé d'offrir son fils. Lorsqu'il mit à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Vous imaginez, vous avez eu déjà du mal à avoir un enfant, et en plus Dieu lui demande de le sacrifier. Il y a Dieu, il est bizarre des fois. Mais bon, il pensait, Abraham, que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. En tout cas, déjà à cette époque-là, et là on est bien loin, Abraham croyait dans la résurrection. Daniel, par exemple, va parler de deux résurrections, on en parlera tout à l'heure. Il parle de celle des justes et des injustes. Il sait qu'à un moment, les injustes vont ressusciter et les justes vont ressusciter. Donc tous ces gens qui ne veulent pas de Dieu et qui croient pouvoir fuir Dieu, ils vont le faire durant leur vie, mais à la fin, ils vont être devant lui, qu'ils le veuillent ou non, puisqu'ils vont ressusciter. Le psalmiste dit aussi qu'il sait que Dieu le tirera du séjour des morts. Il y aurait beaucoup de choses à dire. En tout cas, beaucoup y croyaient. À l'époque de Jésus, je ne sais pas si vous connaissez un peu les Sadducéens, c'était un petit groupuscule qui était en opposition avec les Juifs parfois, mais eux niaient absolument la résurrection. Et c'est peut-être pour ça aussi que Paul est en train de parler de cela dans 1 Corinthiens 15. Mais certains ne croyaient pas dans cette résurrection. On voit plusieurs cas aussi, ça c'est pour prouver que la résurrection est possible. Trois résurrections prouvent la puissance de Dieu. Élie avait ressuscité un enfant. Élisée aussi va ressusciter un enfant. Il y a un mort qui va toucher le corps d'Élisée qui était mort, et qui va ressusciter. Donc, il y a des faits avérés dans la Bible. Après, si vous ne voulez pas y croire, c'est votre problème. Mais moi, j'y crois. Il y a deux enlèvements. Alors là, on ne parle pas vraiment de résurrection, mais deux personnes qui ne sont pas passées par la mort. Qui ça ? Dites pas Emmanuel. Qui ça ? Élie et plus vieux.
Enoch.
Hein, deux personnes qui ne sont pas passées par la tombe. Alors, on ne sait pas où ils sont. Élie, on sait qu'il a été enlevé. Après, est-ce qu'il va revenir ? Possible, il y a plein de... On ne va pas rentrer dans le détail. Mais est-ce qu'ils sont ressuscités déjà? Je ne sais pas. Ézéchiel donne aussi une vision, mais là, on serait plutôt dans l'aspect spirituel. Et lui, vous voyez la résurrection spirituelle d'Israël. Il y a avec cette vallée des ossements là, qui reprend la chair. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage. Ça, c'est pour l'avenir, parce qu'Israël, à un moment, va accepter Jésus-Christ quand il va revenir. Et certains vont se convertir. Pas tous, mais une partie, en tout cas. On voit d'autres... Plusieurs cas de résurrection encore dans le Nouveau Testament, par exemple dans Luc, le fils de la veuve de Naï, Jésus touche le cercueil et dit au jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et l'enfant se lève. C'est pas compliqué pour Jésus de ressusciter quelqu'un. Nous, on serait là pendant 2 heures à prier. Lui, il le dit et ça se fait. Un autre dans Luc 8, la fille du chef de la synagogue, Jésus saisit sa main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. On va peut-être à comprendre pourquoi des fois il parle plus fort ou pas. Enfin, je ne sais pas. Il faudrait faire une étude. Un autre exemple, Lazare. Vous connaissez très bien Lazare. Il cria d'une voix forte. Et Lazare, qui était mort depuis 3 jours, si je me souviens bien, va sortir et va être vivant. Dans Matthieu 27, quand le voile du temple sera déchiré à la mort de Jésus, il y a les sépulcres qui se sont ouverts et plusieurs corps des saints qui étaient morts vont ressusciter. Donc ça devait être curieux de voir dans les cimetières certaines personnes qui ont ressuscité au moment où Jésus est mort et allé dans le séjour des morts. Dans Actes, à Jopé, Tabitha, ou Dorcas, les deux noms, étaient malades et mourus, et Pierre va ressusciter Tabitha et lui dira « Tabitha, lève-toi ». Puis acte 20, encore un jeune homme nommé Eutychus, qui était, vous vous souvenez, assis au bord de la fenêtre, et quand Paul faisait son discours, à un moment il s'est endormi, les pasteurs quand ils parlent, ils s'endorment, et il est tombé, et il est mort, mais Paul va se pencher sur lui et le prendra dans ses bras et il dira que son âme est en lui. Donc quand vous venez à l'église, vous ne mettez jamais sur le bord de la fenêtre. D'accord ? Enfin voilà, il y aura encore énormément d'autres cas. Est-ce que les gens à ce moment-là croyaient dans la résurrection ? Bah oui, il y avait suffisamment de preuves de résurrection. C'est un fait avéré et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être tous ces gens-là, par exemple, qui ont ressuscité, mais ils sont morts après. Voilà. Donc ce n'est pas la résurrection comme Christ est ressuscité. Ils sont ressuscités parce qu'il y avait la puissance de Dieu qui était manifestée là au monde, mais ils ont vieilli, Lazare a vieilli, et il est mort à un moment de nouveau. Mais il ressuscitera réellement quand Jésus reviendra, ou quand l'Église sera enlevée, etc. Donc elles sont ressuscitées, mais elles sont mortes. Christ est le seul ressuscité réellement, définitivement. Il est des prémices, comme on a vu. Mais tous les exemples qu'on a partagés là, ça corrobore tout simplement la réalité de la résurrection. Et ça me donne plus d'espoir. Et ça corrobore aussi la possibilité de la résurrection. Il faut le prouver, On le prouve par les exemples, tout simplement. La science aime bien les faits. Ben là, il n'y a que des faits. Donc on ne peut pas aller contre. On va me dire, mais on ne les a pas vus. Il y a 500 témoins. Ça me suffit. Quand on s'intéresse aux caractéristiques de la résurrection, là, il y aurait énormément de choses à dire, mais je vais très simplement... Quand vous ressusciterez, vous aurez un corps différent. Alors, je ne sais pas à quoi il va ressembler, vous serez tous beaux, ça c'est sûr. Et la nature, par exemple, enseigne que la mort engendre la vie. Dans Jean chapitre 12, 24, il dit « en vérité, je vous dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il y aura d'autres passages. Il faut passer par la mort pour pouvoir avoir la vie. C'est pas moi qui ai décidé ça. Moi, j'aurais bien voulu être éternel tout de suite. Et c'était le cas au départ, hein, dans le jardin d'Éden. Mais bon, l'homme a décidé d'aller contre Dieu. Nous aurons un corps qui sera différent. Prenez le temps un peu de lire 1 Corinthiens 15. Il explique un peu avec ses mots, l'apôtre Paul, mais un corps différent d'aujourd'hui, selon, comme dit 1 Corinthiens 15, celui que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. On va être des stars, on va être beaux, hein, magnifiques. Je ne sais pas si on va briller. En tout cas, ce que Dieu fait est beau, non ? Magnifique créature que vous êtes déjà aujourd'hui, comme dit la Bible. Hein ? On se regarde le miroir le matin et on dit « Ah, magnifique créature que je suis, comme je suis beau !» Et pourtant, Dieu nous voit de cette manière-là. Et, oui. Et nous, on dit « Ah là, bon après, il faut se peigner un peu, ça c'est clair, mais quand même. » Un corps nouveau et glorieux, nous dit la Bible, incorruptible, hein, qui ne peut plus se défaire, un corps glorieux. Ah, c'est quand même quelque chose qu'on y réfléchit, hein. Plein de force, hein François ? Plein de force. Spirituel, c'est plus la même chose que ce qu'on vit aujourd'hui, puisque Jésus, il n'avait plus les mêmes notions, on va dire, qu'il avait avant, en tant qu'être vivant seulement. Et il est dit que, semblable à celui du Christ ressuscité, dans Philippiens 3, 20, 21, il est dit, alors je cherche où je me suis, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, comme Jésus. Oh, ça va être magnifique, ressuscité comme Jésus. Un corps et une âme qui sont immortels, hein, parce qu'aujourd'hui notre corps est mortel, l'âme est immortelle, mais le corps est immortel pour l'instant. Et un auteur disait, c'est ainsi que Vinet, hein, l'auteur que vous connaissez, a pu dire, « Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme, mais à l'immortalité de l'homme qui a un corps et une âme. » Il y en a qui pensent qu'à la mort, ben, ceux qui sont perdus, c'est les témoins de Jéhovah par exemple, sont annihilés, je ne sais pas si vous connaissez ce verbe, c'est qu'il ne se passe rien après. Alors, j'ai dit un jour à un témoin de Jéhovah, j'ai dit, mais s'il n'y a rien après pour les injustes, après la mort, pas de jugement, mais moi je vais braquer les banques. Et il n'y a personne qui va me condamner. De toute façon, peut-être je vais essayer de ne pas me faire choper. Et ils m'ont regardé comme ça, le témoin de Jéhovah, j'ai dit, mais il faut être concret. Si je ne suis pas jugé, je fais ce que je veux. Hein. Après, une fois que je suis mort, que j'ai disparu, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Par contre, s'il y a un enfer, là, c'est autre chose. Là, ça me fait réfléchir. Là, ça me fait peur, éventuellement. Mais nous sommes immortels et qu'on soit juste, qu'on soit injuste, on va ressusciter à un moment. Donc, des témoins, des faits, tout cela pour nous prouver à nous aujourd'hui que nous allons un jour ressusciter. Alors, la grande question, c'est savoir quand. Vous avez une date ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la Bible nous parle de certaines choses et on peut les mettre dans une espèce de chronologie. On l'a vu déjà, comme Daniel disait, la Bible parle de deux résurrections, celle des justes et celle des injustes. Dans Jean, il est dit que tout le monde entendra la voix de Dieu un jour. Alors, je pense qu'il appelle déjà aujourd'hui, pas avec ce type de voix, on va dire, mais à un moment, tout le monde sera confronté à Dieu. Et si vous passez toute votre vie à dire « Dieu n'existe pas, je ne veux pas voir Dieu, je vais tout faire », vous le verrez de toute façon. C'est déjà perdu d'avance. Ça, il faut leur dire des fois, peut-être aux gens. Perdu d'avance. Avec tout votre orgueil, ça ne sert à rien. Et la Bible dit que les uns iront pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Hein, dans Daniel 12, il est dit « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Puis continuant en disant qu'il y en a qui seront ressuscités pour, avec Dieu et d'autres sans Dieu pour l'éternité. Paul aussi va faire un discours devant Félix, hein, et il va démontrer qu'il croit lui-même à la résurrection. Après la mort, il y a beaucoup de textes qui nous disent que l'homme est conscient. Il y a des textes qui le disent, qu'il est vivant spirituellement. La question, c'est savoir, est-ce qu'il est avec Dieu ou est-ce qu'il sera loin de lui ? Mais en tout cas, après la mort, on vit. Allez dire ça dans le monde, c'est pas normal. Ben si, on va vivre. Concernant la résurrection des justes, on va commencer par eux. Là, il faut la distinguer dans trois choses, on va dire, trois étapes, on pourrait dire aussi comme cela. D'abord, il y a les justes de l'Église. C'est nous aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, l'Église a commencé à la Pentecôte et s'achèvera au moment où elle sera enlevée. C'est une période où on pourrait parler d'une dispensation. Et quand Jésus va enlever l'Église, ça se fera d'un seul coup, Il n'y aura plus personne, enfin j'espère qu'il n'y aura plus personne sur les chaises. Et bien, on sera enlevé d'un seul coup. Et la Bible nous dit dans Thessaloniciens que les morts en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui étaient chrétiens depuis le début de l'Église, ont d'abord ressuscité. Allez, on les laisse aller d'abord, on va être poli. Ensuite, nous les vivants, nous allons aussi être enlevés d'un seul coup et ressuscités. Vous imaginez hein, à Carrefour en train de faire vos courses, préparer la popote pour le soir et puis d'un coup, boum, dans le ciel, dans la gloire, ressuscité. C'est bien, vous n'aurez pas à payer. Pas de travail lundi. Mais est-ce qu'on y pense vraiment ou est-ce que c'est vraiment une petite histoire comme ça qu'on se raconte de temps en temps? Est-ce qu'on est prêt à ça? Je pense surtout quand on est dans le péché, quand on n'a pas demandé pardon à quelqu'un, quand on est dans la colère. Et si Jésus venait juste à ce moment-là, on ne sera jamais parfait. On a toujours quelque chose sur le cœur. Mais il faut quand même y réfléchir. Et donc se dire, ouais, bon, là, dès que tu es dans la résurrection, on y pense, mais c'est quelque chose de concret au quotidien. Comment, d'un seul coup, je vais me retrouver devant Jésus? Ça fait réfléchir, quand même. Et cet enlèvement, en tout cas, nous, on le pense, se fera avant cette période qu'on appelle la tribulation. Si vous voulez un peu voir, c'est dans Apocalypse, mais il faudrait aller aussi dans l'Ancien Testament, c'est très long à étudier. Il y a une période de 7 ans, qu'on appelle la tribulation, ou la colère de Dieu, où l'Antichrist va monter en puissance. Au milieu de la tribulation, il va se déclarer Dieu, et le monde entier va l'adorer. Jésus est ressuscité, l'Antichrist va faire semblant d'être ressuscité, on a refusé Jésus-Christ ressuscité, on va adorer l'Antichrist faussement ressuscité. C'est quand même curieux, l'homme. Et donc l'Église sera enlevée avant, peut-être pas forcément tout de suite, enfin précisément avant que commence la tribulation, en tout cas, elle ne traversera pas cette période de colère de Dieu et de d'horribles choses qui vont se passer. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire l'Apocalypse. Mais la Bible nous dit, dans Thessaloniciens par exemple, que nous, chrétiens, nous ne subirons pas la colère de Dieu. Et cette colère, elle va se manifester par des sceaux, par des trompettes, je ne sais pas si vous connaissez un peu, par un tas de cataclysmes sur la terre. Des choses horribles vont arriver, mais les hommes, ils diront à Dieu, on te maudit. Ils savent que c'est lui qui le fait, mais ils vont quand même encore le maudire, au lieu de se repentir. Donc on pourrait montrer, Dieu pourrait se montrer à n'importe qui aujourd'hui qui ne veut pas croire. En face, il y en a qui diraient non. Ils n'en veulent pas. Donc forcément, le jugement sera juste à la fin. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Avant l'Église, il y a des gens qui étaient croyants, ce que moi j'appelle, les théologiens appellent les saints de l'Ancien Testament. Abraham, Moïse, etc. Tous ces gens-là ont été justifiés aussi par leur foi. Ils vont ressusciter à un moment, mais pas en même temps que l'Église, il semblerait. On a lu tout à l'heure dans Daniel que ça se fera à un moment où il y a comment dire, quelque chose de terrible sur la terre comme ça n'a jamais eu lieu. Et on pense à la fin de la tribulation parce que c'est là où il y a toutes les coupes qui vont être déversées. C'est le moment le plus terrible que le monde va connaître, puis la bataille d'Armageddon. Et c'est certainement à ce moment-là, à la fin de la tribulation, peut-être un peu avant la fin, que ces saints de l'Ancien Testament vont ressusciter. Et quand vous serez dans la gloire, bonjour David, bonjour Salomon, ça va ? Monsieur Abraham, vous allez les voir, on va les connaître, hein, et on va passer l'éternité ensemble. Ça va faire quand même quelque chose de bizarre, hein, de se dire qu'on va être avec Abraham, David et d'autres encore. J'aurais plein de questions d'ailleurs. Mais voilà, on pense que ça serait à la fin de la tribulation. Et puis il y a une troisième résurrection des justes, hein, enfin on ne va pas l'appeler comme ça, mais une troisième étape on pourrait dire, parce qu'il n'y a qu'une seule résurrection des justes, mais il y a des étapes. Il y a les martyrs de la tribulation. On a dit tout à l'heure, si l'Église est enlevée avant la tribulation, d'un seul coup, il restera certainement des gens dans l'Église. Je suis désolé de le dire. Parce que surtout aujourd'hui, beaucoup de gens croient être sauvés, mais ne le sont pas. Ils sont religieux, ils ne sont jamais repentis de leurs péchés, ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ dans leur vie, réellement. Mais ils sont religieux et ils vont à l'Église. Mais ils sont là, et regarderont autour d'eux. Oh, on m'avait dit des choses. Je savais que l'Église allait être enlevée, et moi je serai là. Par contre, il y a 7 ans qui commencent à se préparer là, de terribles tribulations pour les croyants, puisqu'il est dit dans Apocalypse que pour leur foi, ils vont être décapités, ils vont être poursuivis, c'est un massacre, en fait. Donc, il faut réfléchir aujourd'hui à savoir si je suis vraiment né de nouveau, parce que si l'Église est enlevée demain, c'est pour vous, tout ça. Je suis désolé. Si vous n'êtes pas né de nouveau et croyant. Mais quand Jésus va revenir à la fin de cette tribulation, il y a ces croyants, parce qu'il y aura des croyants qui vont quand même proclamer la foi pendant cette grande période difficile. Ils vont être décapités, ils vont mourir pour leur témoignage. Et puis, à ce moment-là, quand Jésus va revenir, ils vont aussi ressusciter. Donc voilà trois étapes, on pourrait dire, de la résurrection des justes. L'Église est enlevée, puis les saints de l'Ancien Testament, et puis les martyrs de cette fameuse tribulation. Et quand Jésus reviendra, il va s'asseoir sur son trône à Jérusalem, le monde entier le verra, il y aura beaucoup de morts, en tout cas tous ceux qui n'ont pas cru en lui ou qui se sont battus contre lui, tout le monde va être jugé, ça sera un massacre terrible. Vous imaginez tous les incroyants qui meurent d'un seul coup? C'est terrible. Et le millénium, comme on appelle ça, ou les 1000 ans de règne de Christ, va commencer qu'avec des croyants. On voit dans la Bible qu'à la fin de ces 1000 ans, il y aura une grande bataille qui s'appelle Gog et Magog, où il y a des nations qui vont se réunir contre Jésus. Ça veut dire que pendant 1000 ans, il y aura des enfants, des générations qui vont naître, et qui vont au fur et à mesure de nouveau se rebeller contre Jésus-Christ. Et Jésus va régner avec une verge de fer, il est dit en psaume 2, si je me souviens bien. La justice parfaite, en tout cas au début. Enfin, toujours avec Jésus, mais après les hommes vont faire certainement ce qu'ils ont envie. Quand vous irez au tribunal, la justice sera rendue parfaitement. Ça change un peu, hein. Vos droits seront respectés, puisque Jésus est là. C'est magnifique, non? Moi, vous n'avez jamais vu de l'injustice dans votre vie, peut-être. Donc ça vous dépasse, mais il y a des choses terribles dans ce monde. Et quand Christ va régner, tout cela sera absolument parfait. Mais l'homme, malgré qu'il ait Jésus en face de lui, malgré qu'il connaisse son amour, qu'il peut lui parler peut-être, eh bien, il y en a qui n'en veulent pas. Voilà. Bon, c'est leur choix, c'est triste. Mais bon. Puis après ces 1000 ans, il est dit que la terre sera détruite, hein, après la bataille de Gog et Magog, la terre sera détruite, et c'est là où la deuxième résurrection aura lieu, celle des injustes. Le grand trône blanc sera dressé, où Dieu sera sur ce trône blanc, et à ce moment-là, il est dit « petit et grand », intéressant dans l'Apocalypse, « petit et grand ressusciteront », et là on parle des injustes, hein. Et ils ressusciteront simplement pour entendre la sentence. On ouvrira des livres, on verra qu'ils n'ont pas accepté Christ dans leur vie. Et la seule sentence, ça sera d'être jeté dans les temps de feu, là où il y a le diable, là où il y a les démons. Et cela pour l'éternité. Et comme dans cette histoire avec Lazare et, Lazare et l'homme riche, hein, l'homme riche, il disait, c'est vrai, il souffrait cruellement, hein, il demandait à Abraham, mais donne-moi de soulage ma douleur. Il reconnaissait que c'était vrai. Et il disait, mais va prévenir les gens, justement, parce que c'est vrai. Mais Abraham a dit, il n'y a que la parole de Dieu. Et ils ont la parole de Dieu de la croire. Mais lui témoigne de ce que c'est l'enfer, en particulier la douleur, mais aussi le regret. Le regret d'avoir entendu, d'avoir su, et de ne pas avoir fléchi le genou devant Jésus-Christ dans ma vie. Si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps d'y réfléchir aujourd'hui, c'est important. C'est tellement important parce que la vie est courte et on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Moi, je ne sais pas. Il ne faut pas être trop fier de soi en disant « moi, je vis jusqu'à 80 ans, vous n'en savez absolument rien ». Mais après, c'est trop tard et ça va vite. Donc, deux options seulement. Il y en a qui aimeraient une troisième option, pas Dieu, pas Satan. Moi, j'étais philosophe autrefois et j'essayais de trouver celle, mais ça ne marche pas. C'est Dieu qui a le dernier mot, et donc soit je suis avec lui, soit je suis loin de lui. Et la question, c'est que vous pouvez vous poser aujourd'hui, et où vous irez-vous? Pour terminer, la résurrection rappelle que notre vie est éphémère. Il faut préparer son éternité. Vous prenez une assurance pour votre voiture, pour votre maison, elle ne va pas forcément brûler, mais vous êtes prêt à prendre une assurance, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais l'homme ne prend pas d'assurance éternité, on va dire. Il s'en fiche, il croit qu'il est tout puissant et éternel. Quand on y réfléchit, vous pensez que vous allez mourir? C'est loin, dans notre tête c'est loin. On n'y pense pas vraiment, mais au moment où ça arrive, c'est trop tard. Mais ça se prépare, l'éternité. D'abord, si je ne suis pas sauvé, il est temps d'y réfléchir. Mais si je suis sauvé, il est temps aussi de réfléchir à la vie de chrétien que j'ai. Et comme je vais être jugé devant Jésus-Christ, dans le tribunal de Christ. Ça se prépare. Si la résurrection est l'espérance des croyants, elle est aussi l'effroi des non-croyants. Parce que je dis effroi tout simplement que même si je veux rester dans ma tombe parce que je ne veux pas de Dieu à un moment, je serai obligé de sortir de cette tombe et je serai obligé d'être en face de Dieu et je serai obligé d'entendre la sentence et je ne dirai rien, je ne pourrai rien dire. Ça doit être frustrant. Toute la vie, j'ai pu dire non, non, j'ai pu me lutter et là, je suis bâillonné, les mains liées, je ne peux rien dire et j'entends juste la sentence. C'est terrible, c'est effrayant. Alors si nous sommes chrétiens, la mort ne nous effraie pas, même si je sais que ce n'est pas drôle, mais elle ne doit pas nous effrayer parce qu'elle est tout simplement le commencement de la vie avec Christ pour l'éternité. Seigneur, nous aide à intégrer tout ça, peut-être à le partager aussi avec ceux qui veulent bien entendre, mais en tout cas, que ce soit notre espérance. Prions. Seigneur, merci en cette période de Pâques de nous souvenir que non seulement tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous, et nous voulons t'en être totalement reconnaissants, mais nous voulons aussi nous souvenir que tu es ressuscité, et c'est un fait glorieux, extraordinaire pour l'humanité, et tu démontres là la puissance de Dieu, que tu es Dieu toi-même, Seigneur. Nous voulons nous réjouir parce que tu es les prémices, tu es le premier, cet Adam nouveau, et nous allons bientôt te suivre, et quelle joie, Seigneur, de savoir que nous allons être transformés, quelle joie de savoir qu'il n'y aura plus de péché dans notre vie, quelle joie de savoir que nous aurons un corps glorieux, que nous allons partager l'éternité avec toi. Seigneur, remplis notre cœur avec cette espérance tous les jours, c'est qu'on est bien maussade bien souvent, et fais-nous penser à cela pour que nous ayons de la joie tout simplement dans notre vie chrétienne. Seigneur, tu connais peut-être les gens aujourd'hui ici et qui ne te connaissent pas encore, ou peut-être qui se trompent tout simplement dans leur religion ou dans je ne sais pas quoi. Seigneur, parle à leur cœur, montre-leur l'urgence de naître de nouveau, de demander pardon de leurs péchés, de t'accepter aussi comme leur Seigneur et leur Sauveur. Que ça fasse notre joie et que ça fasse aussi ta joie. En tout cas, nous voulons proclamer que Christ est ressuscité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.